Je tiens d'abord à remercier le professeur Soupio pour cette invitation, Madame Sportouche pour l'accueil organisé. C'est un honneur grand et inattendu d'être ici. Je sens une grande disproportion entre moi et l'histoire de cette institution, la valeur scientifique de participants à ce colloque. Si la conviction selon laquelle les droits constituent la seule justice possible dans un monde diversifié ou tout du moins une mesure raisonnable de justice s'est diffusée, la réflexion de Weil semble nous mener à nous méfier des droits en tant que camouflage potentiel du pouvoir, qu'il soit public ou privé, et donc revêtement inattendu de la force. Et l'effet de la force est la justification de l'homme. Le droit et les droits proviennent de Rome, et selon Weil, les Romains, qui avaient compris comme Hitler que la force n'a la plénitude de l'efficacité que vêtue de quelque idée, employaient la notion de droit à cet usage. Elle s'y prête très bien. Weil discerne une ligne de continuité évoquée non sans goût du paradoxe entre le droit romain et l'idéologie d'Hitler, vu comme développement extrême d'une idée du monde gouverné et commandé par la force. Les droits sont des points de cette trajectoire. La prédominance de la force n'est pas une dérive produite au cours de la modernité, dont les droits sont une expression privilégiée, mais le centre de toute l'histoire humaine, à tel point que l'Iliade, le poème de la force, en devient le plus pur des miroirs. Bien que s'insérant dans les événements intrinsèques à la civilisation occidentale, la polémique que Weil réserve à l'idée des droits de l'homme trouve un point de coagulation dans l'interprétation de la philosophie des Lumières de ce dernier. Le droit et les droits de Jean de 1789 sont l'expression d'un esprit de marchandage. Avec la revendication des droits, on n'aide pas la justice, mais on vise à prendre part à une répartition, à un échange. La question à laquelle le droit répond, pourquoi l'autre a-t-il plus que moi, se distingue nettement de la question radicale que pose la justice. La notion de droit renferme une guerre latente, ne se soutient que sur un ton de revendication, et quand ce ton est adopté, c'est que la force n'est pas loin derrière lui pour lui confirmer, ou sans cela, il est ridicule. Il y a une ambiguïté irréductible dans les droits. L'on peut user et en abuser, comme pour la propriété dans le droit romain. Les dangers d'une exaltation idolâtre des droits, au travers desquels l'on en vient à célébrer la puissance en la couronnant d'un aura de bien, est donc immanent. Lorsque l'on invoque une bonne cause, les droits en l'occurrence, et que l'on considère possible de légitimer l'usage de la force, l'on ne fait que cultiver une illusion mortifère, car qui recourt à la force est inévitablement utilisé par elle et à son tour chosifié. Pour poursuivre la justice, il faut libérer radicalement les droits de la force en faisant d'eux la position de qui reçoit une attention et un soin au lieu de qui formule une revendication. Même l'actionnabilité des droits, qui dans une perspective juridique exprime la préoccupation de l'effectivité de ces mêmes droits, est une solution insatisfaisante et trompeuse, car elle élude la question cruciale de qui peut rendre présent et agir les droits. Il n'est pas possible de confier la réaction à l'injustice à celui qui en supporte les conséquences. Pour Weil, je cite, « ceux qui ont le plus souvent l'occasion de sentir qu'on leur fait du mal sont ceux qui savent le moins parler. » Trop souvent, au tribunal, Weil avait assisté, tout en restant frappé, au mutisme désarmé de l'homme incapable de prendre la parole et de se formuler ses revendications bien que légitimes. Le malheur est par lui-même inarticulé, les malheureux supplient silencieusement qu'on leur fournisse des mots pour s'exprimer. C'est cette même expérience qui affleure constamment dans les écrits consacrés à la condition ouvrière. Dans l'usine, le silence est un phénomène général. L'oppression, à partir d'un certain degré d'intensité, engendre non une tendance à la révolte, mais une tendance presque irrésistible à la plus complète soumission. L'actionnabilité des droits laisse donc dénuder les droits des plus méritants. Ces derniers ont plutôt besoin d'une écoute attentive et d'un mouvement protensif. La justice exige une capacité unilatérale, non réactive ou réciproque, d'attention et de soins. Weil en fait une question pour ainsi dire de position. Elle écrit « On est trop mal placé en haut pour se rendre compte et en bas pour agir. C'est là, d'une manière générale, une des causes essentielles des malheurs humains. Le décalage entre la position propice à l'action et celle propre à l'évaluation correcte a une issue dramatique. Il arme les pouvoirs et rend les malheurs muets. Vu d'en bas, loin de la tentation et de la possibilité même de la force, les droits pourraient trouver une place dépourvue d'ambiguïté. Tout comme sur un autre plan, la préoccupation de la nation dans une période de défaite et d'humiliation. Les droits sont donc l'objet d'une double limite. Une limite constitutive, à savoir leur vocation pour ainsi dire de partage ou commercial, étrangère à la question profonde de justice. Et une limite positionnelle, liée à l'improbabilité d'initiative revendicative de la part de qui vit dans le malheur. Dans un passage de l'enracinement, Weil critique les droits car les hommes de 1789 ont voulu en faire des principes absolus, tandis que le champ des conditions de fait appartient à ce dernier. Quand ils sont accompagnés d'une prétention d'absoluité, les droits accèdent à une universalité qui ne leur revient que tant qu'ils restent étroitement corrélationnels aux besoins de l'homme. L'espace possible pour les droits humains est celui de donner un revêtement juridique à la faiblesse, d'être un rempart face à la vulnérabilité même de l'être humain. Pour exprimer la force ambiguë et séparatrice des droits à partir de la tradition du droit romain, Weil recourt de manière significative à l'exemple de la propriété, les droits d'user et d'abuser. Cette corrélation entre les droits et les pouvoirs ou la force n'est pas une intuition originale. Elle s'accompagne avec une variété d'accents d'une ligne interprétative consolidée pour laquelle il y a une logique patrimonialiste originelle sous-jacente aux droits propre à la modernité politique et économique. Marx, Proudhon et Hegel, pour n'en citer que quelqu'un, ont été des interprètes influents d'une telle ligne critique. Déjà chez Hobbes, la liberté se décline en tant qu'indépendance, à tel point qu'il recourt pour décrire la condition humaine libérée d'obligations réciproques à la métaphore curieuse du champignon, et pour expliquer la fonction séparatrice de la loi à l'image des ais, avec lesquels le Léviathan délimite des trajectoires sûres garantissant l'immunisation de l'individu du rapport avec l'autre que soi. La protection de l'intégrité et de la propriété sont entrecroisées. Chez Locke, liberté et propriété se fondent pour former une endiadys. Le gouvernement légitime n'a d'autre fin que la conservation de la propriété dans la paix et la sécurité. La liberté, par conséquent, se connote comme indépendance. C'est de là que naît la formulation connue pour laquelle la seule limite admissible pour la liberté est celle de ne pas nuire à autrui. Les projets de séparation auxquels Weil reconnaît la critique aux droits de l'homme s'avèrent ainsi intrinsèques à la modernité. Les droits sont l'équipement fourni pour la procédure concurrentielle. Le glissement de la signification des droits vers une notion de mérite devient à ce moment presque cohérent. L'emphase sur le mérite tend à devenir un principe moral. Le néologisme méritocratie fait allusion à un horizon de justice. Le potentiel anxiogène de la liberté moderne qui impose à l'individu de se montrer à l'auteur de l'indépendance qui lui est conférée se dévoile ainsi. La critique des droits, centre de la modernité juridique, provient également du front conservateur. C'est à partir de là qu'on leur conteste un effet déstructurant de l'ordre et la dégradation de la qualité du rapport social effiloché par un individualisme armé par les droits. La revendication de droits insatiables semble destinée à engendrer une démesure qui est à l'horizon du désir toujours inassouvi et inassouvissable. Averti de l'ambiguïté du lexique des droits, il faut se poser le problème de la direction et des conséquences d'une éventuelle déconstruction de ce même droit. La critique peut se transformer en un règlement de compte grossier avec les droits et déclencher une régression et surtout un renoncement à leur potentiel émancipateur et de reconnaissance. Lue sur le plan juridique, la position de Weil peut susciter résistance et méfiance. Le cantonnement ou la subordination de la logique des droits, bien qu'avec des limites, risque de s'avérer fonctionnel au pouvoir plutôt qu'à la faiblesse muette des malheureux. D'autres auteurs défendent le potentiel des droits et leur fonction historique de revendication collective génératrice de lien. Dans cette direction, un débouché différent historiquement réalisé a consisté en l'extension du catalogue de la structure des droits, avec l'invention de droits sociaux. Ceux-ci sont le fruit d'une action collective, conflictuelle, certes, mais à la fois agrégative et finalisée à la reconnaissance des positions qui seraient autrement inexorablement subalternes. Toutefois, dans la perspective chère à Hobbes et de l'État moderne, la possibilité d'une dimension collective des droits apparaît problématique, car comprimée par la trame individualiste et déstructurée du peuple. La faiblesse structurelle et la précarité des droits sociaux confirment la difficulté de cette connexion. Et l'objection avertissement de Weil concernant le mutisme de l'homme faible reste vive. La revendication de la reconnaissance vaut-elle pour couvrir toutes les exclusions ou seulement celles qui, tant qu'elles, sont capables d'une organisation collective? La critique des droits exige donc une prudence et un raffinage à deux stades au moins. En premier lieu, il convient de distinguer les niveaux éthico-philosophiques de l'analyse sur lesquels se déplace Weil du niveau proprement juridique parce que les instruments et les remèdes ne peuvent pas coïncider. Dans un deuxième temps, inhérent au plan juridique, il faut discerner le champ des droits afin de distinguer une demande de reconnaissance en garantie de position de fragilité de l'exigence d'offrir une couverture à ambition individuelle destructrice ou à position de pouvoir. La voie tracée par Weil attribue la suprématie à l'obligation éminemment morale, dont le fondement, justement parce que l'on affirme les caractères inconditionnels et éternels, s'enracine en dehors et au-dessus de toute logique conventionnelle qui le rendrait disponible. L'obligation n'est pas enracinée dans la terre, mais en dehors du monde et de la nature, dans l'être humain et dans le fond sacré et impersonnel que celui-ci renferme. Il y a obligation envers tout être humain, du seul fait qu'il est un être humain sans qu'aucune autre condition ait à intervenir. Par conséquent, les devoirs ne sont pas des exigences de régulation de la circulation chaotique des droits auxquels l'individu consent pour coexister, mais reposent sur un fondement ontologique véritatif et indisponible. Et puisqu'entre la vérité et la malheur et les malheurs il y a une alliance naturelle, à l'obligation s'applique la fragilité. C'est seulement en faisant taire les moi personnels avec ses revendications que l'homme peut diriger son attention vers les malheurs et par là accéder à la vérité. L'estranéité de la justice au cadre juridique est confirmée par la contestation que Weil réserve en polémique avec Maritain au droit naturel. En effet, si les philosophes personnalistes entrevoient dans la foulée du thomisme une déductibilité de la loi positive de celle de la nature, pour Weil, le droit se place juste au-dessus de la force brutale et n'a pas le pouvoir de mener à la justice. Les plans du droit et de la justice apparaissent différents d'un point de vue qualitatif. La justice s'abreuve à une source à laquelle le droit ne peut puiser. Les droits, la personne et la démocratie sont compris significativement dans une seule catégorie qui, bien qu'étrangère au surnaturel, se place un peu au-dessus de la force brutale. Si les plans sont différents, cela n'exclut pas que l'on puisse trouver les voies d'une alliance à l'abri toutefois de tout éclectisme. Il ne suffit pas d'associer les devoirs aux droits, parce que cette association ne résout pas la question des priorités et risque de laisser les champs libres justement au moment décisif, celui du conflit. Il faut que le rapport entre les droits et les devoirs soit ordonné et que les priorités soient définies. L'espace des droits doit être reconstruit après, à partir de la sacralité de l'être humain et de l'obligation qui y est rattachée. La suprématie de l'obligation est la seule voie, car ces mêmes droits arrivent pour ainsi dire à destination, c'est-à-dire là où les besoins humains offensent la sacralité de l'homme et n'en servent pas la volonté des puissances. L'homme apparaît donc dans la réflexion de Weil comme le destinataire de droits et le sujet des devoirs. Il reçoit des droits et rend des devoirs. En effet, les droits peuvent être récupérés dans la mesure où ils sont reconnus par les obligations correspondantes, mais non vice-versa. De sorte que, dans la définition des uns et des autres, il est nécessaire de partir du besoin congénital à l'être humain, de l'impersonnel, et non de la volonté de l'individu qui formule des revendications. Seule la suprématie de l'obligation offre une opportunité à la reconnaissance de la condition fragile dans laquelle se manifeste la vérité de l'humain. Il s'agit de comprendre quel rôle peut avoir les droits dans cette tâche qui les transcende largement. Dans les remarques sur le nouveau projet de Constitution, Veil formule une indication utile. Toutes les constitutions politiques, républicaines et autres, ont pour unique fin d'empêcher ou au moins de limiter l'oppression à laquelle la force incline naturellement. Partant de ces hypothèses, la Constitution ne doit pas réglementer seulement les pouvoirs politiques, mais tous les lieux du pouvoir, même privés. Elle doit conformer les conduits d'un patron d'usine, d'un magistrat, d'un journaliste, de quiconque ait les pouvoirs de brimer ou de tromper des hommes. Les droits, surtout dans sa dimension constitutionnelle, peuvent offrir un soutien à cette idée de limite opposée à la force ou au pouvoir. D'après Veil, on peut obtenir un deuxième point de contact entre les droits et la justice, avec lesquels le premier, bien que ne pouvant aspirer à la seconde, répond partiellement aux exigences soulevées par la justice. Ce sont les besoins humains. L'explication de l'obligation de respect de la dignité humaine ne peut accéder à la réalité supraterrestre dans laquelle celle-ci est enracinée et peut cependant s'exprimer utilement dans l'attention apportée aux besoins terrestres de l'âme et du corps, qui participent à la sacralité de l'être humain. La liste des obligations correspond aux besoins humains vitaux. Mais mettre au centre les besoins permet d'échapper à la hubris des droits seulement si cette opération s'accompagne d'une hiérarchisation des besoins, qui distingue et privilégie ceux qui expriment la fragilité. Veil parle du caractère essentiel et vital des besoins et en propose une taxonomie. Ces besoins physiques et moraux sont construits à partir de la femme, qui doit servir de modèle pour dresser la liste des devoirs éternels envers tout être humain. Ce n'est pas la volonté qui fonde les besoins, sinon si ces derniers se dissiperaient dans des désirs incompatibles. Veil élabore des critères discrétifs. D'abord, les besoins sont limités, ainsi que les nourritures qui leur correspondent. En outre, ils s'ordonnent par couple de contraires et doivent se combiner en un équilibre. C'est seulement avec l'élucidation analytique par l'humain de ces besoins essentiels qu'on les construit selon une idée intrinsèque des mesures qui se communiquent sous la forme des limites aux droits correspondants. La limite est originelle, c'est le point, selon moi, plus important. La limite est originelle, interne au droit. Ce n'est pas une exigence extrinsèque et ultérieure de coordination. La possibilité de hiérarchiser les besoins en tant que critère de fondation des obligations et de gradation des droits correspondants suppose une référence faisant office de mesure qui conjure le nivellement de toutes les libertés sur un même plan, indifférent et équidistant. Dans cette direction qui laisse entrevoir des rechutes importantes sur le plan juridique, il semble utile de citer la réflexion d'un des pères constituants italiens et juriste renommé en Italie, Giuseppe Dossetti. Dans une importante conférence tenue en 1951, Dossetti estrait de l'histoire de l'État moderne, en particulier de sa déclination libérale, une constante en termes d'immunité dont jouit la liberté économique. Dans cette condition franche, il voit le reflet passif avec lequel l'État traite et garantit toutes les libertés, en les écrasant sur un même plan. L'aboutissement de cette réflexion est que la seule liberté que l'État a toujours respectée, même durant les dictatures totalitaires, est le droit de la propriété privée, des instruments de production et de la libre initiative économique, jusqu'à, pour Dossetti, garantire un véritable ius singulare au profit de la société économique. Ce caractère persistant est reconduit à une cause fondamentale, à savoir l'absence délibérée et programmée d'un finalisme de l'État,
et de l'ordre juridique, de sorte que ceci n'ont pas un but propre, ils n'ont une fin que dans les multiples fins infinies de chaque composant. L'absence de fin compromet la possibilité pour l'État d'exercer une médiation et toute fonction de synthèse dynamique entre les différents composants de l'ordre social, en laissant ces derniers s'ajuster tout seuls dans une paix instable et minée imposée par les plus forts aux plus faibles. Dossetti exprime donc les thèmes du conflit entre les droits et les problèmes qui en dérivent pour l'ordre juridique de se doter d'un critère d'ordre finaliste de résolution non neutre. Ce critère n'est pas le fruit d'une orientation choisie de manière discrétionnaire, mais dans la foulée de la philosophie de saint Thomas, entre ainsi que la nature du politique à laquelle appartient la poursuite du bien commun. Fort de cette orientation finaliste indisponible, l'État peut et doit entreprendre, selon Dossetti, une action de réformation sociale, visant à l'élimination des cristallisations sociales et économiques qui font obstacle au développement de la personne et à sa participation sociale, économique et politique. Dans l'optique de Dossetti, la finalité de l'État, à la fois ontologiquement tracée et critère discrétif de l'espace des libertés, est le bien commun. On se meut ici dans les coordonnées conceptuelles d'empreintes aristotéliques et thomistes rejetées par Weil. Toutefois, Dossetti ne répète pas un thomisme statique et schématique. Et d'autre part, le finalisme n'est pas une perspective étrangère à la recherche de Weil. D'où l'intérêt pour une association prudente à la recherche de traductions normatives cohérentes avec la même pensée de Weil. Est saisi dans la finalité, le but, l'essence même de l'homme, en l'essence de laquelle l'homme devient fou au sens littéral médical du terme. Et dans les réflexions sur la cause de la liberté et de l'oppression sociale, Weil établit une corrélation entre la course au pouvoir qui marque l'histoire humaine sous différentes formes et la sostitution des moyens à la finalité. Le pouvoir asservit les hommes et les empêche de voir l'horizon de la finalité. À l'Assemblée costituante italienne, le thème de la finalisation de liberté, introduit par Dossetti, jalonne les débats et marque le test approuvé. Cette expression ne manque pas de susciter des résistances, déjà au cours de ce débat, car elle se confond avec une idée de fonctionnalisation de liberté. Les deux concepts sont pourtant distincts. La finalisation prend, à la source de certaines dispositions, une valeur unitaire qui en constitue la ratio fondatrice. Dans cette perspective appliquée au droit, ceux-ci forment un corps organique entre eux, puisqu'ils font système autour du fondement d'où ils jaillissent et reçoivent un sens indicatif. En revanche, la fonctionnalisation procède en subordonnant les libertés à un principe extrinsèque au système des libertés mêmes. La graduation des droits, préoccupation commune à Dossetti et à Weil, se maintient sur un sentier offrant des garanties si on reconnaît un principe situé non en dehors, mais à l'origine de ces derniers, une donnée fondatrice en termes des principes de justice ou de bien commun, de la liberté qui en donne également la mesure. Dans la Constitution italienne, la hiérarchisation des libertés procède selon un principe de base anthropologique. Si dans l'État moderne d'inspiration libérale à partir d'Hobbes, l'ordre se déplace de la reconnaissance d'une dimension originelle naturelle des libertés, l'inspiration personnaliste, fondement de la Constitution italienne, place en revanche la liberté au même niveau que l'égalité, comme étant l'issue à laquelle l'ordre, dans ses différentes articulations sociales et istituzionalisées, a été préordonné. La liberté et l'égalité découlent en effet pour la personne seulement au sein d'eux et grâce à un tissu de relations, à commencer par l'accueil que l'individu radicalement fragile reçoit parmi les liens, la famille et les autres formations sociales qui en encouragent et accompagnent le développement de la personnalité. Le rapport entre la liberté et la solidarité reçoit à partir de cette formulation une inclination particulière, réfractaire à tout ordre selon une logique de prius et posterius. La liberté ne vient pas en premier, car cela réduirait la solidarité à une force externe d'opposition ou de réparation par rapport à une liberté qui se prétend absolue de l'origine. La solidarité non plus n'éprime pas, car elle risque d'engendrer une liberté sacrificielle, écrasée sous le poids de la restitution d'une dette inextinguible. Il se fonde plutôt une complémentarité originelle de liberté et de solidarité, car la liberté, en se reconnaissant engendrée et alimentée par les soins reçus, est appelée à devenir responsable du devoir de construction d'une société engagée dans la promotion de l'humain. L'article 2 de la Constitution exprime cette interdépendance et cette complémentarité entre droits inviolables et devoirs impératifs de solidarité. Les uns et les autres ne font pas des listes distinctes, mais sont encadrés de manière significative entre rapports. Ils présentent des zones étendues d'interférences et de superpositions. Les figures des droits-devoirs dans lesquelles la liberté et la responsabilité se fondent sont fréquentes. Les droits-devoirs d'exercer un travail est archétypique, mais il y a aussi les droits-devoirs de vote, d'instruction, d'éducation, la finalisation sociale qui permet au législateur de conformer la propriété privée et l'initiative économique. Dans tout cet article, les devoirs projetés dans la trame même des droits sont restés exclus ou aussi opposés de l'extérieur. Sur le plan de la mise en œuvre des prescriptions constitutionnelles, cette formulation ouvre des possibilités, confiées avant tout au législateur de conformer, selon l'inspiration solidaire, les modalités d'exercice des droits et de diffuser des devoirs de soins également dans les rapports interprivés. Les devoirs de créer les conditions sociales adéquates pour accueillir et promouvoir la personne revient à la République comprise dans son ensemble, en se fondant sur les engagements des institutions politiques, mais aussi sur les individus et leur formation sociale. Une telle perspective finalisatrice ne s'achève pas en prescription, mais se complète avec des normes promotionnelles d'une libre construction coopérative de la société. Il y a donc une mesure de solidarité due que l'ordre exige et une non due dont il promeut et encourage la libre initiative. Dans la liberté de la personne coexistent en effet les dimensions complémentaires de la dette et du don. L'idée de la dette repose essentiellement sur la dimension due de la solidarité. Celle du don promeut l'espace d'un soin librement entrepris. Une emphase unilatérale sur la dimension de la dette risque d'engendrer une idée sacrificielle qui fait apparaître la relation avec l'autre comme une condamnation imposée. Vivre ça, une confiance exclusive en les conduites oblatives, met en danger la fin de l'ordre, l'attention portée alla dignité de la personne, en la livrant à la pure spontanéité. Conclusion. Les deux perspectives considérées, philosophiques et constitutionnelles, mettent en évidence un écart entre l'horizon finaliste de la justice ou du bien commun d'une part et un faisceau ou une dialectique des droits individuels d'autre part. Sans cette perspective de la justice et un horizon finaliste qui permette de graduer les formes d'exercice des droits et d'en résoudre les conflits, la liberté est exposée à la transformation dégénérative en pouvoir. La liberté couronnée dans la modernité n'a pas cet horizon. Elle est pensée en tant que condition originelle d'indépendance et génératrice de droits absolus, auxquels on peut opposer seulement la limite qu'il ne nuise pas à la liberté pareillement originelle absolue de l'autre, nemine ledere. Au centre de ces deux scènes, celle suggérée par Veil et celle de l'ordre constitutionnel italien, se pose de manière significative la condition de la fragilité, interprétée non comme expérience pathologique de l'humain, mais comme l'épiphanie de la condition universelle de l'homme. Et c'est autour de la reconnaissance de la vulnérabilité humaine, lorsqu'elle devient co-responsabilité, che s'ouvre l'espace de la fraternité. La fraternité, ainsi entendue, est implicite dans les rapports entre liberté et solidarité que la Constitution italienne impose. Dans cette dernière, également dans la réflexion menée par Veil, la fraternité est justement fondée sur la reconnaissance de la fragilité ou vulnérabilité humaine structurelle et donc de l'exposition commune au malheur. Le principe de fraternité esprimé dans la modernité juridique a été rapidement désamorcé ou partiellement traduit en une solidarité mise entièrement à la charge des institutions des États sociaux. Suite à la stérilisation de la fraternité, la liberté et la solidarité sont restées séparées le long de la frontière divisant la sphère privée de la sphère publique. Inspiré par la fraternité, la solidarité ne se réduit pas à des devoirs ponctuels ou à des prestations de pouvoir public, mais reste inhérente à la trame des rapports sociaux, en les conformant de manière impérative ou promotionnelle. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, cette perspective s'exprime comme un horizon à conquérir entièrement. Sur la scène internationale, l'avertissement de Veil quant à l'usage idolâtre des droits mis au service de la force apparaît plus que jamais actuel. Tout comme l'admonition de ne pas confondre la cause de la justice, les droits, avec celle de la force. La référence du préambule de la Déclaration à l'appartenance à la famille humaine crée un devoir des êtres humains à agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Les droits sont encadrés dans une logique inspirée par la reconnaissance d'une condition universelle affirmée sous la forme du lien, la famille humaine, d'où découlent non seulement des revendications, mais aussi des responsabilités des uns envers les autres et en relation avec la communauté, article 1 à 29. Entendu dans ce sens, les droits deviennent la préoccupation d'une communauté internationale irréductible à la dialectique entre États, bien que la communauté des États en offre une première représentation insuffisante, désormais affaiblie, mais peut-être indispensable. Les droits sont un instrument de mondialisation, s'ils sont précédés et alimentés par la reconnaissance d'un lien qui en oriente l'exercice et en trace la mesure. Sans quoi leur espace est destiné à devenir, à l'égalité avec les marchés, les terrains de culture d'une globalisation inhospitalière pour les malheurs et donc pour l'humain. Selon un influent juriste, et j'ai réellement fini, Antonio Cassese, la communauté internationale devrait suspendre la rhétorique des droits humains indivisibles, qui exprime une idée abstraitement raisonnable, mais qui risque de perpétuer le nivellement des droits et se concentrer sur un étroit noyau des droits essentiels qui constituent les valeurs fondamentales de la dignité humaine. La fraternité est le principe qui unit les droits entre eux et invite à voir à leurs racines un lien fondateur de co-responsabilité dont la fragilité est l'objet privilégié de la préoccupation. Merci beaucoup.
Bien. Merci beaucoup de ce bel exposé qui, justement, nous a permis de comprendre un petit peu mieux la logique des montages constitutionnels de l'immédiat après-guerre, dans le cas si intéressant de l'Italie. Comme nous aurons encore deux interventions ensuite, c'est-à-dire celle du professeur Christodoulidis et ma conclusion, on va faire une petite pause cette fois-ci, peut-être, ça sera bienvenu. Mais avant cette pause, donc, s'il y a quelques questions à poser sur l'exposé que nous venons d'entendre, on va pouvoir faire circuler un micro. Et je vais peut-être commencer cette discussion. Si je comprend bien l'idée de ce principe fédérateur qui fixe un horizon commun à l'interprétation des droits. Vous proposez que ça puisse être la fraternité au plan international. Et quelle distinction alors vous proposez de faire entre ces notions de solidarité et de fraternité? Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu comment vous situez ces deux concepts? On sait que dans le cas français, la devise de la République prévoit la fraternité. Enfin, la fraternité apparaît à la Révolution de 89 d'une façon un peu inquiétante. C'est la fraternité ou la mort. Donc là aussi, si ma mémoire est bonne, c'est la Révolution de 1848 qui introduit la fraternité dans la devise de la République, mais de façon très frappante. Autant la liberté et l'égalité sont devenues des principes interprétés, surinterprétés par le juge constitutionnel et la jurisprudence en général, autant la fraternité semble être demeurée stérile, un peu du point de vue juridique, et ce qui a pris la place, plus ou moins, et dans le cas français, plutôt moins que plus, c'est l'idée de solidarité. Donc, je ne sais pas si ce débat solidarité-fraternité existe en Italie, si vous pouviez nous en dire un petit peu plus.
Alors, je pense que la fraternité,
puisse devenir le terrain commun. Je pense que je sais que c'est une valeur aussi de la Charte africaine des droits de l'homme qui valorise l'idée de la communauté. Je pense que à la différence de la solidarité, la fraternité part d'un lien qui est originel, qui précède la liberté et dont décline la liberté comme co-responsabilité. Voilà pourquoi, avec la fraternité, la solidarité ne peut pas se réduire à une tâche de l'autorité publique, mais reste inhérente à la liberté. Ce n'est pas une force extérieure à la liberté, comme un mur contre laquelle la liberté va se heurter, mais c'est une dimension originelle. Les devoirs du travail, les fondements de la démocratie sur le travail dans la Constitution italienne a, selon moi, exactement cette valeur d'affirmer une idée de liberté qui reconnaît les dons, la dette et restitue et coopère la construction de l'humain. Voilà pourquoi la coopération est une dimension essentielle de la liberté, pas la séparation, l'immunisation dont parlait Hobbes, la tradition moderne des droits de l'homme. La solidarité peut être fonctionnelle à la séparation, lorsqu'elle est bornée à une tâche de l'autorité publique. L'autorité publique peut aussi nous donner un revenu minimum, bien que nous ne touchons pas les mécanismes sociaux et économiques. Tout reste immodifié, mais nous sommes assistés.
Il me semble qu'on pourrait distinguer les deux plans dans cette distinction. Il y a la question de savoir, est-ce que, dans le cas de la solidarité, le seul débiteur est l'État ? Là, on peut en douter. Il y a des formes de solidarité qui ne sont pas des formes de solidarité adossées à l'État. Le pacte civil de solidarité, c'est une solidarité qui relève plutôt de l'ordre civil. D'ailleurs, il y a beaucoup de solidarité familiale liée au droit de la famille. Et c'est un petit peu une évolution qui a conduit à faire porter sur les épaules de l'État l'ensemble de la charge de la solidarité. Mais on a des raisons de penser que ce moment arrive à un point où on a peut-être même dépassé les capacités de l'État de faire face aux besoins de solidarité et où le rôle de l'État pourrait être plutôt de soutenir des formes de solidarité civile à différents niveaux. Donc de ce point de vue, je ne sens pas tellement l'opposition que vous faites. En revanche, ce que vous dites sur le fait que la fraternité impose une référence commune qu'on ne trouve pas forcément dans la solidarité me semble avéré, ne serait-ce que par les origines philologiques et juridiques de ces deux concepts, puisque la fraternité implique toujours un ancêtre commun, fut-il mythique. Donc c'est la métaphore de la famille humaine que vous avez citée à propos de la Déclaration universelle, alors que le succès de la solidarité, donc, nous avions tenu un colloque là-dessus il y a 4 ans, qui a été publié. Certains m'ont dit vos colloques ne sont jamais publiés, ils le sont toujours, hein, je vous signale, ça a été publié chez Odile Jacob. La solidarité vient d'une technique de responsabilité civile, de la responsabilité in solidum des Romains, et elle a un grand succès à partir du 19e, parce que justement elle permet de faire l'économie de la verticalité. C'est transporté de la sociologie, donc c'est un phénomène observé. Donc c'est ce qui fait son succès, son aspect sulfureux, la solidarité, parce que c'est à la fois une norme observée, une norme prescrite, donc on peut jouer sur les deux. Alors cela dit, que la fraternité soit potentiellement plus universelle, je me rappelle avoir poser cette question à un ami indien en lui disant « Je suppose que pour vous, fraternité, ça parle plus spontanément, alors que solidarité, c'est quand même lié à l'histoire de catégorie occidentale. » Ah, il m'a dit « Pas du tout, parce que dire que un hors caste est mon frère, ça peut poser problème dans une société de caste, mais si on est dans une même maison qui est en train de brûler, là on va s'aider. Donc c'est l'idée d'une interdépendance objective qui crée l'obligation. alors que l'inscription ou la référence commune pouvait heurter, il ne me le disait pas pour lui-même, hein, mais il m'expliquait que dans une société de caste, la solidarité pouvait être admise, alors que l'idée de fraternité le serait moins spontanément. En tout cas, c'est effectivement un débat. Oui, je vous en prie.
Seulement une précision. Je suis d'accord avec vous. Je ne voulais pas entendre une opposition entre solidarité et fraternité, parce que aussi l'état social est une conquête de la fraternité, une fraternité organisée. Mais c'est important que la fraternité tient la solidarité rattachée à ses racines dans le lien social, en intégration, pas une opposition.
Je sais que ça renvoie à la distinction Gesellschaft, Gemeinschaft, en réalité, la solidarité peut-être du côté de la société, et fraternité renvoie à l'idée de communauté telle qu'elle est définie par Tenis ou Weber. Mais enfin, oui.
Je disais que, enfin, effectivement, c'est peut-être le. Fraternité, c'est plus imagé, donc c'est. Ça a quelque chose de plus familier, si l'on peut dire. Mais quand même, moi, je me pose la question de la solidarité, toujours de la question de l'obligation, parce que il faut financer, là encore. Je reviens toujours à chaque fois de ces droits qui n'ont pas de débiteurs. C'est quand même très embêtant. C'est très ennuyeux d'affirmer des droits. On crée si on ne peut pas les satisfaire, on crée des frustrés indéfinis, quoi. Et alors, même dans la solidarité, l'État social, il faut financer l'assurance maladie, etc. Et moi, ce qui m'avait frappé aux États-Unis, où la difficulté a été extrême pour Obama de créer un minimum de prise en charge des dépenses de santé, qui nous semble effarant, mais je me souviens très bien, c'est que les Américains, des collègues m'ont dit, mais vous ne comprenez pas que pour nous, c'est inconcevable de payer les uns pour les autres. C'est inconcevable. Ça ne les empêche pas d'être extrêmement charitables, d'avoir des charités business considérables, de donner beaucoup d'argent, d'être assez généreux dans un comportement. Mais l'idée que, institutionnellement, on passe, et qu'on passe par un organisme qui n'est pas forcément l'État, d'ailleurs. C'est d'ailleurs l'assurance maladie, c'est l'État, mais enfin, ce n'est pas une direction du ministère des Finances, quoi, je veux dire. Donc, il faut de toute façon qu'il y en ait. Il y a nos cotisations qui alimentent les droits des autres. Donc on paye les uns pour les autres. Ça, c'est inconcevable. Et ça, c'est de la fraternité. Mais il faut, on n'en a pas. Quand c'est étatisé, parce que ça devient un mécanisme automatique et abstrait et anonyme, on n'a plus le sentiment de la solidarité. On ne le sent plus. On ne sent pas qu'il y a des gens qui payent pour les dépenses que je fais. Alors, quand on nous dit on va décharger des charges sociales qui sont trop élevées, mais ça montre bien qu'il faut financer ça. Et là, c'est de l'obligation collective. Enfin, mais il y a une mesure de cette obligation. On ne peut pas payer indéfiniment.
Mais il y a une lecture. Si on reprend la déclaration de 1948, la déclaration universelle, on est frappé par le fait, si on essaie de la relire d'un œil enfantin, que l'État est quasiment absent.
Oui.
Et beaucoup des droits, y compris les nouveaux droits, les droits économiques et sociaux, sont parfaitement interprétables et seraient opposables indépendamment d'une référence à l'État. Le droit à la santé est opposable par le locataire qu'on a installé dans un immeuble insalubre ou par le salarié qui est mis dans des conditions de travail qui vont nuire à sa santé. Donc il est source d'obligations indépendamment d'une intervention de l'État. Et sur les logiques de pot commun que vous évoquez, elles peuvent être prises en charge par l'État, mais il y avait en France, et d'ailleurs en Italie aussi, toute la tradition mutualiste. Ce qui marche bien en Afrique en matière encore de mécanismes de solidarité, c'est par exemple les tontines, qui sont des mécanismes dont on aurait beaucoup à apprendre, et auxquels on fait confiance, alors que les mécanismes de solidarité exportés depuis l'Europe, c'est de l'argent qui est à personne. Donc s'il est à personne, ça veut dire qu'il est à celui qui a la main sur le coffre. Et c'est une des raisons pour lesquelles, vis-à-vis des logiques de mondialisation, globalisation qui nous occupent, toutes les tentatives qu'on a fait d'exporter nos propres catégories et façons de penser la solidarité, que ce soit, si je reprends la question de l'assurance maladie, des mécanismes gérés par l'État ou bien la micro-assurance, l'assurance privée, tout ça ne marche pas. Ça marche lorsque l'on s'appuie sur des modes qui sont ancrés dans une culture, parce que dans toute culture, il y a des mécanismes qui répondent à ce que nous appelons solidarité. Donc il me semble que c'est un bon exemple où on voit que la logique de la globalisation, par exemple la solidarité intergénérationnelle, c'est dire qu'il faut faire de la retraite par capitalisation partout. En plus, ça va alimenter la bourse, c'est génial, etc. Et une logique de mondialisation, c'est-à-dire essayer de comprendre dans les diverses sociétés le type de lien, et c'est un lien politique, le lien entre les générations, qui doit être redéfini génération après génération. Donc là, on a un assez bon exemple des inconvénients qu'il y a à se laisser attraper par la fausse universalité d'une catégorie. Bon, je vous ai promis une pause. Alors, ça, c'est la promesse me tient moi-même. Donc, ce que je vous propose, c'est... je suis désolé de ne pas vous avoir donné la parole, ni d'ailleurs sur l'exposé précédent, mais on fera une tournée générale de questions avant la conclusion. Donc, je vous propose qu'on fasse quand même qu'on souffle 10 minutes et qu'on se retrouve à... entre moins 5 et... Et c'est ça, vers 16h, un petit peu avant 16h, on reprendra à ce moment-là.